Donc ce matin, on va étudier le livre de Jean. Donc on va lire le passage que nous allons étudier, nous allons prier et puis ensuite on va l'étudier. Donc nous sommes dans Jean chapitre 2, au verset 23.
Now when he was in Jerusalem at the Passover feast,
pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ce signe miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas ça? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prions. Père Céleste, oh Père Céleste, merci. Merci pour ce texte, pour ce passage ce matin. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ce que dit ce texte ce matin. Nous avons besoin de regarder profondément à ce qu'il implique. Nous avons besoin de comprendre comment il s'applique à nous. Comment il s'applique à chacun de nous dans cette pièce. Alors je prie que ton Esprit Saint fasse ce que toi seul peux faire. Que tu prennes cette parole et que tu la rendes vivante, que tu prennes cette parole et que tu la rendes puissante, que tu prennes cette parole et que tu passes au-delà des barrières de la langue et de la culture, que tu détruises tous les murs qui sont là et qui nous empêchent d'entendre ce que tu veux nous dire, pour que tu puisses nous parler clairement et de manière vraiment audible à chacun de nous ce matin dans cette pièce. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. All right.
Alors,
we're going to actually be in this passage for a while. So we're going to get our feet wet
ce matin,
this morning, and I think we're going to find that just getting our feet wet in it is going to be challenging
to us.
Et rien que de commencer l'étude de ce texte va être un vrai défi.
Ça commence avec Jésus qui se trouve à Jérusalem pour la Pâque. Si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez que Jésus est allé au temple pendant la Pâque et qu'il a retourné les tables et qu'il a dit « Mais que se passe-t-il ici ?» Et un des leaders est venu le voir et lui a dit « Mais quelle est ton autorité ? Montre-nous un signe. Prouve-nous ton autorité pour faire ce que tu es en train de faire dans le temple. » Parce qu'il était en train vraiment, il était en colère, il était vraiment en train de retourner toutes les tables, il était en colère que ce soit devenu une place de marché. Donc le leader vient voir et lui dit « Montre-nous un signe. » Et Jésus a refusé. Et là, dans ce passage, on découvre que pendant qu'il était là à la Pâque, il faisait des miracles.
Il ne le faisait
juste pas sur la demande des leaders. Il n'était pas là. « Ok, vous voulez un miracle ? Très bien, j'en fais un. Vous voulez lequel ? Donc, je ne vais pas juste faire un miracle parce que vous le demandez. »
Ce
n'était pas le style de Jésus.
Non.
Il faisait des miracles pour libérer les gens, pour guérir les gens. Et la Bible nous dit que beaucoup de gens croyaient en son nom. Mais bizarrement, il disait qu'il ne se révélait pas à eux. Parce qu'il savait ce qui se passait à l'intérieur d'eux-mêmes. Il connaissait leur cœur. Il savait exactement ce qui se passait à l'intérieur d'eux.
Ils
le suivaient dans la manière Facebook actuelle, ils ne croyaient pas vraiment. Même s'ils disaient qu'ils croyaient et qu'ils le suivaient, ils ne pouvaient pas avoir confiance en eux. Donc Jean nous dit que quelqu'un est venu voir Jésus. Il nous parle de Nicodème.
Et donc Nicodème est un exemple
du type de personne dont Jésus parle ici, qui croit, entre guillemets, mais que leur croyance n'était pas vraiment appropriée. Donc c'était un pharisien, un chef des Juifs. Et donc il est venu voir Jésus de nuit et il dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si tu n'es pas avec lui. » Donc Nicodème voit quelque chose en Jésus. Il dit « Tu dois être un maître envoyé de Dieu parce que personne ne peut faire tous ces miracles. » Il doit y avoir quelque chose qui se passe ici de particulier. Mais alors qu'on lit ce passage, on voit que Jésus ne pense pas que Nicodème comprend vraiment ce qui se passe.
Nicodème
ne comprend pas qui est véritablement Jésus.
Jésus
n'est pas un simple enseignant envoyé de Dieu. Il est bien plus que ça. Et pourtant,
Nicodémus
est là devant lui, il se trouve devant Jésus, avec confiance. Il est assurant dans sa position.
Confident in his standing before God.
Assuré dans le fait d'être là, en présence de Dieu.
In the things of God.
Il a confiance dans les choses de Dieu, mais Jésus lui dit « Ça ne suffit pas, Nicodème. Ta vie est construite sur de mauvaises fondations. Ta relation avec Dieu n'est pas bonne. » Donc, regardons à certaines de ces mauvaises fondations. L'une des fondations que je pense que vous pouvez identifier en Nicodème, c'est la culture. Nous avons tous tendance à être culturellement arrogant. Nous avons comment est-ce qu'on dit ça ? La plupart d'entre nous, de manière inconsciente, nous sommes plus intelligents que toutes les générations
that ever came before us.
Okay.
How many of us, you know, when we were teenagers?
Avant nous, cette arrogance.
I mean,
Quand j'avais 14 ans, mon père était si stupide. Okay.
I mean,
mais oui, c'est vrai.
It's true.
Enfin, c'était ma perspective.
My perspective.
C'était mon point de vue.
And I would argue that in some ways we never grow out of it. Oh yes.
Et on change
jamais.
By the time
we're in our 20s, we're amazed at how much dad
has
earned.
Quand on a 20 ans, on est émerveillé de tout ce que notre père a pris. Et la réalité, c'est que on s'en sort jamais vraiment. On regarde en arrière. On regarde ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on est là et on se dit, mais on n'aurait jamais laissé ça se produire. On est bien plus intelligents qu'eux. On est bien plus intelligents que les générations qui nous ont précédés. Tous
have this kind
ce type d'arrogance concernant l'époque dans laquelle on vit.
Nicodemus would have had the same
avait probablement le même point de vue. Souvenez-vous, il vit dans l'époque, à l'époque où les Romains, l'Empire
romain,
et aujourd'hui, on y va toujours en tant que touristes pour voir les choses qu'ils ont construites à l'époque. Les Romains avaient compris comment contrôler toute la Méditerranée.
On étudie toujours leur philosophie aujourd'hui. This was a culturally rich time.
Et Nicodemus
was a part of that culture. So there's a sense in which he, like us, has this cultural arrogance, we might call it. We all share it, every generation
en font preuve. Mais c'est pas seulement ça.
But it's not just that. Nicodemus was Jewish. And it's possible to read into this something anti-Semitic, but actually don't. Because Nicodemus was Jewish. It was his family culture. It was his family, that's what he was raised. He was raised within the Jewish faith. And the Jewish people are the people of God. God did call Abraham. God did choose Isaac. And the whole Old Testament flows. All of salvation history flows through the Jews. And so there's a sense in which Nicodemus has this religious security. His family has taught him correctly.
Sa famille l'a éduqué correctement. Et donc ça, c'est une mauvaise fondation. Cet héritage.
And it's a faulty foundation. And there are some of us
who were
raised in Christian homes. In a Christian culture,
et on pense
and we think we're okay.
Et on pense qu'on a juste.
And Jesus is going to tell Nicodemus, that ain't enough. That is not enough. But it's not only that. Nicodemus was highly educated. He was a Pharisee.
Un érudit.
Okay.
Il a une éducation.
He had a doctorate, for lack of a better term. He had a doctorate in his religion.
Par manque d'un meilleur terme que celui-là. Il est éduqué. Donc si vous avez une
Bible,
trouvez l'Ancien Testament, prenez la Genèse.
And then go all the way to the book of Malachi. Put your fingers around the Old Testament.
Et tenez tout l'Ancien Testament entre vos doigts. Donc de Genèse à Malachie.
For me, that looks something like this.
C'est ce que ça représente. Ok.
Okay.
Vous voulez être un pharisien?
You want to be a Pharisee?
Voilà, première étape.
Step one.
Mémorisez tout ça. Mémorisez-le.
Memorize it.
Certains d'entre nous seraient là, oh, vous voudriez que je retienne un verset? Pourquoi est-ce que l'on fait mémoriser des versets à nos enfants, mais que nous, quand il s'agit pour nous-mêmes en tant qu'adultes de le mémoriser, on ne le fait pas? Et donc, voilà, on apprend à nos enfants à manger des légumes, mais nous, pour le petit déjeuner, on a le droit d'avoir des gâteaux.
Nicodème
était vraiment érudit, il était éduqué.
And there comes with education an arrogance.
Alors, avec cette éducation, il y a aussi l'arrogance. Que voilà, on sait plus, on ne peut pas vraiment être trompé par qui que ce soit. On est sage et sophistiqué. Vous pensez à des choses compliquées. Tout ce que vous faites est vraiment...
Nicodemus was of this type. He was
voilà, il a reçu une éducation, il a été entraîné. Donc il sait ce qu'il fait. Et Jésus lui dit non, ça suffit pas.
Not only that, it says Nicodemus was a ruler.
C'était un chef.
C'était
un leader.
He was the chief.
Il était le chef. Il était le patron. C'était un des chefs de son peuple. Donc ça lui
position in the religious organizations, but it also gave
him a great deal of power. Il avait une position hiérarchique importante dans le peuple, par rapport au peuple. Donc il était chef.
Vous regardez
ces choses-là et en tant que personne, toutes ces choses-là, on les regarde et on se dit, mais c'est bien. On veut être ces choses. Et Jésus dit, ça suffit pas. Ça suffit pas, Nicodème, ça suffit pas. Et en plus de ça,
Nicodème
avait vu les miracles. Il avait été témoin de Jésus qui accomplissait des miracles. Il l'avait vu faire des choses incroyables, comme guérir des personnes. Il en a fait vraiment beaucoup, Jésus. Et Nicodème les a vus. Il a vu Jésus faire ça. Waouh! Dans notre contexte actuel, Nicodème était donc éduqué, il était chef, il
avait
des miracles dans son église et il les avait vus. Il en avait été témoin et Jésus lui dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir été témoin de miracles. Dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit, tu peux faire des miracles, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est une réponse un peu étrange, mais Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'était la venue du règne de Jésus, de Dieu sur terre. Donc c'était vraiment entrer dans le royaume de Dieu, et donc c'est quelque chose que Nicodème attendait vraiment, en pensant que le Messie viendrait et qu'il ouvrirait le royaume de Dieu. Et donc Jésus lui dit, mais à moins que tu sois né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais de quoi tu parles, Jésus? Ça veut dire quoi être né de nouveau? De quoi tu parles? Comment une personne peut-elle être née de nouveau? C'est biologiquement impossible. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Remarquez bien, il dit qu'être né de nouveau, c'est être né de l'eau et de l'esprit, et que personne ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu à moins d'être né de nouveau, être né d'eau et d'esprit. Vous vous souvenez que lorsque nous avons lu le texte, Jésus pensait que Nicodème savait de quoi il parlait. Mais comment est-ce que tu... Il dit à Nicodème, mais comment est-ce que tu peux être enseignant et ne pas savoir ces choses? Donc pour voir de quoi je parle, tu dois retourner à l'Ancien Testament, ce livre que Nicodème avait pourtant mémorisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être né à nouveau, être né d'eau et de l'Esprit? Qu'est-ce que cela signifie? Ézéchiel 36,
versets 25 à 27.
Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ézéchiel indique un jour où quelque chose de radical nous arrivera, où nos cœurs de pierre seront remplacés, sortis de nos corps pour être remplacés par un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Et donc il parle de quelque chose de tellement radical, bien au-delà des capacités humaines, que c'est comme être né à nouveau. Comme entrer dans le ventre et naître de nouveau. C'est un nouvel esprit qui est placé en nous. L'Esprit Saint qui vient pour vivre et demeurer en nous. Et à moins que cela n'arrive, Nicodème, tu ne verras pas et tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Éphésiens 2.
Ephesians chapter 2. Wow, what an important explanation Paul gives us.
Une explication importante, très importante dans Ephésiens chapitre 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'Esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul nous dit pas qu'on était spirituellement malade, mais on était spirituellement mort. Nous étions morts. On était morts parce que, à cause de nos péchés, de nos fautes. Morts. Et tu nous a redonné la vie. Alors que nous étions morts, Dieu nous a ramenés à la vie. C'est ce qui est dit au verset 4. Il nous a rendus à la vie. Mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie. Nous avons été sauvés par sa grâce.
Ce
n'est pas une question des œuvres que nous avons réalisées, des actes, de nos actions, de quelque chose que nous ayons fait. C'est quelque chose que Dieu lui-même a fait. Ce n'est pas ce que nous avons pu faire. C'est vraiment ce que Dieu a fait. Quelle était votre implication dans votre naissance? Oui, c'est sûr, vous étiez là. Mais c'est votre mère qui a fait tout le travail.
You were dead.
Vous étiez mort, c'est Dieu qui vous a rendu à la vie. Vous êtes né à nouveau par l'Esprit. C'est ce que Nicodème ne comprend pas. Nicodème ne comprend pas qu'il ne suffit pas de voir des miracles. Il faut avoir fait l'expérience d'un miracle. Il faut avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance que donne l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Dans Tite 3, versets 3 à 7.
For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us. Not because of works done by us in righteousness,
alors que nous étions loin, que nous étions désobéissants, que nous étions éloignés, que nous étions les esclaves de différentes passions et de différents plaisirs, que nous étions dans la malice et dans la jalousie, haïs par les autres, et que nous nous haïssions les uns les autres. Et c'est là que la bonté de Dieu est apparue, de Dieu notre Sauveur. Il nous a sauvés. Pas à cause de nos œuvres, mais par sa justice, par sa miséricorde. Dieu doit nous donner une nouvelle vie, il doit nous donner un nouveau cœur. C'est quelque chose que Dieu lui fait. Et on n'aime pas ça, pour être honnête. Et on veut que ce soit quelque chose que nous ne puissions faire. Mais la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est quelque chose que Dieu fait. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui le fait. C'est lui qui nous rend à la vie. Jésus explique que ce qui est de parents humains est humain.
But only that which is born of the Spirit is Spirit.
Au verset 7.
Verse 7 of John 3. Do not marvel that I said to you,
ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit.
And you hear its sound.
Mais tu ne sais pas d'où il vient,
but you do not know where it comes from or where it goes.
C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.
The wind blows. You hear its sound. You see the
trees bend. On entend le vent, on voit les branches qui bougent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le contrôler. On voit ses effets, mais il souffle où il veut, et on voit. Et on en voit les effets. On voit les résultats du vent. Quels sont les résultats? Quels sont les effets du vent de l'Esprit qui souffle? Quels sont les effets de la nouvelle naissance? Comment est-ce qu'on voit que la nouvelle naissance a eu lieu? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Quel est le son du vent? Qu'est-ce qu'on peut détecter? la première chose que l'on
voit
quand l'Esprit Saint souffle dans la vie d'une personne, le premier effet, c'est la repentance. La personne se repent et elle croit à l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on voit. Le vent souffle et c'est ce qu'on voit. La personne est convaincue du péché. Elle réalise qu'elle n'est pas en règle avec Dieu. Pas seulement, elle réalise à quel point elle est démunie. Il n'y a rien qu'elle puisse faire.
Sa vie
a été teintée, marquée par le péché et elle ne peut pas le laver. Ils ont tout essayé, ils ont fait des recherches internet, ils ont regardé plein de vidéos YouTube, mais ils ne peuvent pas nettoyer les marques du péché dans leur vie. Et elles voient Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Elles comprennent que Jésus est mort pour payer le prix de leur péché, de son péché. La personne, elle voit ces choses. Et elle se repent. Ce qui signifie qu'elle s'écarte, elle s'éloigne du péché. Il y a un changement d'état d'esprit. Elle se détourne du péché et se tourne vers Jésus. Et elle croit que Jésus est celui qui dit qu'il est. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour les péchés du monde. Et en croyant, leurs péchés sont nettoyés, ils sont purifiés. Ça, c'est le résultat de l'Esprit Saint qui souffle dans leur vie. Maintenant, si vous avez été dans des cercles chrétiens, vous savez qu'il y a un peu de discussion sur qui était le premier, l'œuf ou la poule. Qui est venu en premier ? Le vent ou l'arbre qui se courbe ? Lequel était là en premier ? Est-ce que c'est la foi qui vient en première ou est-ce que c'est l'Esprit Saint ? Mais je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Je pense qu'on ne saura jamais. Parce que je crois que, comme le vent, c'est quelque chose qui est enveloppé dans le mystère de Dieu. Et quand on sera au paradis, ça prendra sens, on comprendra les choses. Mais si vous me demandez aujourd'hui ce que je pense, je vous dirai deux choses. La première, pour moi, il n'y a pas grand-chose qu'une personne morte puisse faire. Je ne pense pas que quelqu'un qui soit mort puisse faire grand-chose. Et pour moi, c'est l'Esprit Saint qui doit faire quelque chose en premier. Pour moi, c'est l'Esprit Saint qui doit agir en premier. Ok ? Je ne vais pas me battre à ce sujet. Mais je dirais que si quelqu'un n'a jamais ne s'est jamais repenti, si la personne ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix, et que ce n'est pas devenu vraiment quelque chose de personnel pour eux, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et vous voyez, c'est ça le problème de Nicodème. Il n'est pas né de nouveau. Jésus, tu es un enseignant envoyé par Dieu. Et donc, voilà, mon éducation et tout ce que je sais me fait dire que tu es un enseignant qui est venu de Dieu, envoyé par Dieu. Et Jésus dit non. Non, non. Tu dois être né de nouveau. Et quel impact ? Ces mots, quand ils sont prononcés par Jésus et qu'ils sont plantés dans la vie de Nicodème, quel impact ces mots ont-ils ? Je pense que ça pousserait Nicodème à réfléchir vraiment de manière intense. Être né de nouveau, peut-être qu'il aurait cherché des passages de l'Écriture. Ça lui fait réaliser que comment est-ce qu'on fait ça ? On ne peut pas faire ça soi-même. Comment est-ce que tu peux pratiquer une opération du cœur sur toi-même ? Ce n'est pas possible. qu'il est là à chercher comment il pourrait faire lui-même.
Oh God. Dieu. Woe is me.
Là, en cherchant, il devrait réaliser que voilà, je suis un pécheur, j'ai désespérément besoin de ton salut, sauve-moi, sauve-moi.
Save me.
Ça, c'est l'effet. Ça, c'est l'effet que ces paroles auraient eu sur Nicodème. Et on sait qu'à la fin de l'épître, Nicodème est un disciple de Jésus. Mais bon, ça c'est plus loin, c'est vraiment plus loin. Mais on y arrivera, mais on sait que Nicodème finira.
Nicodemus
par faire l'expérience du miracle. Donc là, vous voyez le numéro 1. Les numéros 2, 3, 4, 5 viendront la semaine prochaine. On ne va pas parler de tous les points, de tous les effets du son du vent. On
ne
parlera pas de tout cette semaine, de tous les effets de l'Esprit Saint cette semaine. Mais je voudrais qu'on se concentre sur ça.
Et
sur ce que Jésus dit à Nicodème. Certains d'entre vous n'avaient peut-être pas remarqué que Nicodème, alors que Jésus lui dit toutes ces choses, il entend l'écho de quelque chose qu'il a mémorisé. Est-ce que vous avez noté ça? Il entend l'écho de quelque chose. Jésus continue et lui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croyez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
Donc Jésus parle du vent qui souffle.
Et il parle de quelqu'un qui monte et qui descend. Et Nicodème essaye de comprendre ce qu'il est en train de dire.
Et ça
fait écho à quelque chose dans sa tête, dans ses pensées. Et cet écho vient en réalité des proverbes.
Proverbes,
chapitre 30, verset 4.
Who has gathered the wind in his fists?
Éternel.
Who has wrapped up the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What would you say, people? God's done that, right? God
Dieu controls
le vent. Wind and God puts
Dieu
the oceans
les océans
where
là où
they
ils se trouvent. C'est quoi son nom?
What's his name?
Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est Dieu.
Name?
Et c'est quoi le nom de son fils?
What a strange
ça, c'est un drôle de proverbe, n'est-ce pas?
What is his son?
Quel est le nom de son fils? Quel est le nom de son fils? Jean-Baptiste,
right before this whole
juste avant Pâques, il pointait à Jésus, le Fils de Dieu. Il indiquait Nicodème.
Nicodemus.
Quel est son nom?
What is his name?
Quel est le
What
nom
is the name
de celui qui tient le vent,
the wind,
qui le fait souffler?
Makes it blow? What is
Quel
his
est son
name?
Nom?
His name is God.
Son nom, c'est Dieu. C'est quoi le nom de son fils?
Let me give you a clue. It starts with J.
Laisse-moi te donner un indice. Ça commence par J, mais ça termine par S. Ou si tu préfères...
If you prefer a pronoun, Nicodemus,
un pronom, si tu préfères un pronom, Nicodème, c'est moi. C'est moi.
It's me.
Paul va donner un enseignement très intéressant sur l'évangélisation. Et c'est en partie ce que Jésus fait là. Il diffuse la bonne nouvelle. Paul dit que ta parole, ton discours soit plein de grâce et assaisonné de sel pour que tu saches comment répondre à chacun. Le sel est un conservateur. Mais le sel donne soif. En choisissant les images que Jésus a choisies, il donne vraiment soif à Nicodème. Enfin, il provoque cette soif chez Nicodème. On vit à une époque sophistiquée. Nous vivons dans une époque sophistiquée. Dans cette pièce, nous avons des personnes qui ont fait de grandes études, des personnes vraiment sophistiquées. Il y a des personnes aussi ici qui sont puissantes, qui ont du pouvoir, des personnes dont l'opinion a de l'importance, a un certain poids. Il y a des Nicodèmes dans cette salle. Il y a des Nicodèmes dans cette salle qui sont autosuffisants, qui sont sûrs d'eux, et qui ne sont pas nés de nouveau. Et Jésus leur dit, sauf si vous êtes nés de nouveau, vous ne verrez pas ou vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et ce message, ce passage est du sel. Il est là pour être du sel dans votre vie. Il est là pour vous donner soif, cette soif d'être né de nouveau. Je vous en supplie, repentez-vous et croyez en l'Évangile. Repentez-vous. Et donnez votre vie à Jésus. Devenez son disciple. Demandez-lui de vous purifier de toute votre culpabilité, de toute la honte. Demandez-lui de les purifier, de les enlever. Il a payé le prix à la croix. Si ce n'est pas maintenant, quand ? Prions. Père Céleste,
Heavenly Father,
ce passage est une fondation sainte, saine. C'est un sol saint. C'est la porte des cieux, la porte du royaume de Dieu. Seigneur, je prie que l'évangile qui est prêché porte du fruit, que ceux dans cette pièce croient, se repentent, qu'ils acceptent, qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Qu'ils deviennent tes disciples. Il n'y a pas d'autre espoir, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, Seigneur, je demande que le vent de l'Esprit-Saint souffle dans le nom de Jésus. Amen. Amen.